Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il est question de la réintroduction du gypaète barbu dans les Grands Causses. Alors le gypaète barbu, c'est un vautour et depuis 2012, il fait l'objet d'un programme européen de conservation. Sur le territoire des Grands Causses, les quatre espèces de vautours européens sont présentes. Le vautour fauve, le vautour moine, le percnoptère et donc le gypaète barbu qui a la particularité de se nourrir d'os. Alors pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie de Léa Giraud, responsable de l'antenne LPO des Grands Causses, Jocelyn Fonderflick, chargé de mission faune au Parc National, et nous aurons d'ici quelques minutes par téléphone Gilles Vergely, directeur de la Maison des Vautours, donc qui se trouve au Truel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi on parle aujourd'hui du gypaète barbu ? Eh bien parce qu'il y a une quinzaine de jours, deux femelles ont été lâchées donc dans les falaises, en cœur de parc, dans une cavité protégée dans les falaises. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces oiseaux ? Alors d'où viennent ces femelles ? Quel âge ?
Alors c'est donc effectivement deux femelles qui ont été lâchées cette année. Elles ont été baptisées Terre et Tornade par des élèves de Vébron qui ont bénéficié d'interventions de l'animatrice du Parc National des Cévennes. Et ces deux femelles ont été élevées au centre d'élevage spécialisé de Guadalentín, ça se situe en Andalousie, donc en Espagne. Il faut savoir qu'effectivement, les oiseaux qu'on reçoit dans le cadre de cette réintroduction, ce sont des jeunes poussins qui ont été élevés par diverses structures qui sont réunies dans un réseau d'élevage pour l'espèce du gypaète barbu. Donc c'est un élevage en captivité qui regroupe autant des zoos que des centres d'élevage spécifiques comme celui-ci, mais également des collections privées et aussi des centres de soins.
Donc on dit poussins, mais quel est le poids de ces poussins ?
Alors effectivement, c'est des poussins, mais qui ont déjà la taille adulte. Ils font déjà environ, quand ils nous arrivent, 4 kilos. Et ils ont la taille adulte, comme je le disais. C'est juste le plumage, le coloris qui va différer.
Et donc là, on les a équipées, donc elles sont suivies. Donc il y a une technique, hein, on fait une intervention sur les plumes, on leur pose des balises. Enfin voilà, elles sont quand même, elles sont équipées, elles ne sont pas libérées comme ça. Hein.
Oui, quand elles nous arrivent, elles ont 90 jours. Et effectivement, avant de les déposer dans cette petite cavité naturelle, on va réaliser différents types de marquages pour pouvoir les suivre. Autant quand elles ne sont pas encore volantes dans la cavité, mais même après, quand elles seront volantes, il y a des poses de bagues avec des codes au niveau des pattes, des tarses, et également des décolorations à l'air, mais aussi un GPS.
Est-ce que c'est important qu'on lâche des femelles ?
Oui, c'était très important pour nous, puisqu'on avait dans la petite population qui est en cours de constitution dans les Grands Causses un déséquilibre avec beaucoup plus de mâles que de femelles. Et pour des raisons un peu complexes, administratives, techniques, on n'avait pas le sexe des oiseaux avant de lâcher les animaux dans la vire. Et on s'en remettait au hasard, en tous les cas, pour avoir un sexe ratio à peu près équilibré. Cette année, on avait vraiment voulu, que ce soit la LPO ou le parc, en tous les cas, pousser l'idée qu'il nous fallait absolument des femelles. Donc on a différé même un peu le lâcher pour être sûr, en tous les cas, du sexe des oiseaux qui ont été lâchés ici cette année.
C'est la première année qu'un lâcher est réalisé, on va dire, discrètement, sans événement public. Alors pourquoi ce souhait de faire un lâcher en comité restreint ?
Alors c'est vrai que c'est à l'époque on avait commencé à faire tout un événement ouvert au grand public quand on recevait les oiseaux et avant même de les lâcher, mais on s'est aperçu au fur et à mesure des années, des expériences, que les oiseaux étaient très stressés, Alors il faut le dire aux auditeurs, effectivement c'est des oiseaux, donc comme je l'ai dit c'est un réseau d'élevage mais européen, donc les oiseaux ils peuvent nous parvenir, par exemple j'ai parlé d'Andalousie mais même des Balkans, ils font énormément de trajets avant de venir jusqu'au site de libération, ça peut être 20 heures de trajet, donc ils arrivent déjà fatigués, stressés, donc les porteurs du projet ont décidé d'accord en accord de ne plus soumettre ces oiseaux à un stress supplémentaire. Donc dès qu'on les reçoit, c'est les techniques de marquage et ensuite on les dépose dans la vire pour les apaiser le plus rapidement possible.
C'est pas propre à nous en tous les cas, puisqu'il y a la volonté en tous les cas sur tous les projets européens de réintroduction du JPAET, il y a plusieurs pays concernés, que ce type de démarche soit adopté, c'est-à-dire qu'on évite en tous les cas d'augmenter le stress pour les oiseaux et qu'on diffère en tous les cas la partie événementielle, communication avec les acteurs locaux, de la partie lâchée des oiseaux localement.
Nous, on a bien conscience que c'était une chance extraordinaire pour les habitants d'observer de si près ces oiseaux-là. Mais on propose d'autres événements pour parler du projet, pour informer sur la biologie de l'espèce, que ce soit l'événement dont on parlera un peu plus tard, mais aussi des animations estivales proposées par le Parc des Cévennes et la LPO.
Oui, il y a d'autres événements pour pallier justement à cela.
Et pour pouvoir observer les JPAET, oui.
Et donc, ça fait quasiment 15 jours qu'elles ont été lâchées, alors comment se portent-elles ?
Elle se porte bien. Alors c'est vrai que quand Tornade est arrivée, elle était un petit peu plus, elle était plus jeune de quelques jours. Elle était un petit peu plus timide, disons. Elle a été moins active quand on l'a déposée dans la vire. Et puis finalement, au jour d'aujourd'hui, elle a un peu rattrapé entre guillemets sa consœur. Donc elles prennent des prises alimentaires quotidiennes. Elles développent leur musculature à faire des battements d'ailes de plus en plus fréquents, avec des séries de plus en plus nombreuses et donc aussi observent leur environnement, apprennent à se connaître elles-mêmes, mais aussi des congénères ou même d'autres espèces de grands rapaces qui peuvent survoler la vire.
Donc elles sont un peu séparées dans la vire, mais elles ont quand même des contacts proches.
Elles ont des contacts visuels et effectivement, elles ne peuvent pas se prendre entre elles le bec. Il ne peut pas y avoir des frictions, mais elles s'observent, effectivement.
Donc pour rappeler, hein, c'est une vire, vous allez expliquer ce que c'est une cavité mais qui est protégée, qui est grillagée, elles sont quand même bien protégées.
C'est effectivement, en fait c'est une sorte de petit nid artificiel qu'on a recréé puisque normalement à cet âge-là ils sont encore dans le nid avec leurs parents. Donc c'est dans une cavité naturelle au niveau de falaise où on a protégé effectivement puisqu'il n'y a pas les parents et quand même c'est accessible pour les hommes puisque c'est nous qui déposons ces oiseaux-là. Il faut les protéger, il faut avec du grillage effectivement autour envers les prédateurs, mais aussi pour l'instant pour éviter tout problème puisqu'elles sont pas encore volantes et elles sont pas encore en âge de pouvoir voler, on a fermé les vires et quand on voit justement qu'elles ont suffisamment développer ses capacités à battre des ailes et à être suffisamment musclé pour pouvoir prendre le premier envol, on va venir, c'est la seule fois qu'on intervient une fois qu'on a déposé les oiseaux, pour enlever une partie du grillage et leur laisser la possibilité de s'envoler.
Voilà, même quand elles sont nourries, en fait, elles ne vous voient pas.
Non.
Il y a
des petites trappes sur des palissades sur les côtés, effectivement.
Et du coup, quand pourrait-elle s'envoler ? Alors, c'est une histoire d'une quinzaine de jours, trois semaines ?
Alors, Léa précisait que les oiseaux arrivaient autour de l'âge de 90 jours. Et l'envol se fait à partir de 120 jours. Alors, des fois, avec un peu de retard selon les individus. Et ça, c'est des choses qui ont été bien étudiées et calculées. C'est pas par hasard qu'on les lâche à 90 jours. C'est des individus qui sont à même de pouvoir se débrouiller par eux-mêmes. Et comme l'a précisé Léa, à partir du moment où les oiseaux sont lâchés dans la vire, ils ne sont plus du tout en contact avec l'homme. Donc ils doivent être à même de pouvoir se débrouiller par eux-mêmes, c'est-à-dire s'alimenter, interagir entre eux, voire même avec les autres individus qui viennent des fois les voir. Et ce temps où elle passe le temps dans la vire à peu près un mois avant de s'envoler, c'est une imprégnation en tous les cas du lieu, du paysage, qui va faire que quand elles vont s'envoler, elles vont rester à autour d'une année ici sur les grands causses, et puis souvent au printemps de l'année suivante, avant de commencer à prospecter les territoires environnants. Et on espère, en tous les cas, qu'à l'état adulte, reviendront ici pour nicher. Alors, quand on dit ici, ce n'est pas le lieu exact de là où on les a lâchés, mais c'est dans le secteur.
Comment, donc, là, elles vont bientôt s'envoler d'ici quelques temps. Il n'y a pas les parents, après, pour apprendre à repérer, prospecter. Alors, comment elles font, je n'ai pas envie de dire seules dans la nature, elles ont des congénères, mais quand un poussin est dans cette situation, un jeune...
Il y a des comportements qui sont quand même innés, mais effectivement, c'est aussi pour ça qu'on en reçoit deux, pour qu'elles puissent s'auto-apprendre des comportements naturels. Et on a choisi effectivement ce secteur-là parce qu'il y a des déplacements de vautours, donc, des gypaètes bien sûr, mais aussi d'autres vautours. Donc elles vont pouvoir... observer des espèces qui ont un peu les mêmes techniques de vol.
Prendre le même courant, pour ainsi dire.
Voilà. Après, c'est vrai que par exemple, pour s'alimenter, le gypaète, il a une spécificité, c'est qu'il va casser les os, on l'appelle le casseur d'os. Et ça, c'est assez c'est instinctif, en fait, parce qu'il n'y a personne qui va leur apprendre, mais oui. elles arrivent finalement, les individus qu'on reçoit... finissent par se faire ce geste-là alors qu'ils l'ont pas forcément observé des autres.
Et justement, parce qu'il y a d'autres gypaètes dans le secteur, elles ont reçu de la visite peut-être de vautours fauves ou de gypaètes, ils s'approchent de la vire voyant qu'il y a des habitants dedans.
Oui, alors les vautours fauves, ils sont plutôt intéressés par ce qu'on y met, parce qu'effectivement, on met des dépôts des pattes d'agneau et des restes de boucherie. Et donc, ils sont intéressés quand même à pouvoir eux aussi bénéficier de ce dépôt d'aliments pour eux. Ils n'y parviennent pas forcément, parce que comme on en a parlé, c'est grillagé. Par contre, il y a effectivement la visite de congénères d'autres gypaètes barbus qui ont été réintroduits et l'arrivée de deux nouvelles recrues attise la curiosité. Il y a déjà Leirou et Adonis, ce sont nos plus anciens gypaètes, deux mâles qui ont été lâchés en 2014 et 2013, qui sont en couple d'ailleurs, ces deux mâles, mais en couple depuis 2017. Et ils viennent, c'est vrai que le site où ils sont fixés n'est pas très loin à vol d'oiseau, et ils viennent régulièrement passer, se poser, observer les deux jeunes. Il y a aussi Calandretto qui a été lâché en 2019, qui lui est un mâle adulte et qui vient régulièrement aussi passer très proche de la vire, se poser, avec Aven aussi, une autre femelle qui a été lâchée en 2020, qui vient régulièrement parce que son secteur entre guillemets de prédilection n'est pas très loin du site de lâcher.
D'accord. Donc si toutes les conditions étaient réunies, il y avait la possibilité d'effectuer un second lâcher au mois de juin, donc c'est le cas?
Oui, oui. On attend deux nouveaux oiseaux, ce qui va... déterminer si on lâche ou pas les oiseaux, c'est un peu les interactions qu'il va y avoir entre les individus qui sont localisés, subadultes et adultes, et avec ces deux jeunes oiseaux, ces deux jeunes femelles qui vont prendre leur envol. Si on voit qu'il y a des interactions trop fortes, parce que contrairement aux autres vautours, le gypaète est un oiseau territorial. Donc là, on lâche des oiseaux qui sont proches des territoires en tous les cas, ou de ceux qui sont déjà installés, Adonis et Leirou, des individus adultes, et puis des subadultes qui sont dans le secteur. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on regarde de près. Il y a une vigilance du soir au matin, en tous les cas, par rapport aux interactions qu'il pourrait y avoir entre ces deux jeunes femelles et les autres oiseaux. Et c'est ce qui déterminera le fait qu'on lâche ou pas deux autres oiseaux dans les semaines qui viennent.
Femelles aussi ?
Pour une, c'est certain, on connaît déjà le sexe, c'est une femelle. Le second oiseau, on ne connaît pas encore le sexe, mais ça ne saurait tarder, je pense.
Donc depuis 2012, la réintroduction a commencé en 2012, puis en 2015, elle s'est poursuivie grâce à plus. D'ailleurs, depuis 2015, à l'heure actuelle, ça fait deux programmes européens. Donc ça fait 36 gypaètes barbus lâchés dans les grands causses. Alors, combien en reste-t-il dans la région ? Quelle est un peu la situation actuellement ? Ça bouge beaucoup.
Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ça bouge beaucoup parce que c'est la saison estivale, les conditions météo... le mois de mai était très mauvais, mais quand même, c'est des conditions météo qui sont plus favorables à l'ératisme au départ d'oiseaux, notamment des vautours et particulièrement donc, le gypaète. ses premières années, va avoir un comportement erratique et il est amené à partir du territoire, dans son territoire de naissance, donc nous, un territoire d'accueil, pour explorer d'autres massifs. Ils peuvent partir très très loin. Donc c'est vrai que là, en ce moment, ça bouge beaucoup. Mais normalement, on est à 9 individus. À part si aujourd'hui, quand je vous parle, il y en a d'autres qui sont partis. Mais actuellement, on est à 9 individus dans les Grands Causses. Il y a 3 mâles adultes. Leyroux, Adonis et Calandretto, dont j'ai déjà parlé. Et il y a 4 adultes imparfaits. Seven, qui est un mâle de 2019. Ofris et Fario de 2020. Aven, une femelle de 2020. Et 2 jeunes lâchés de 2023, Serapias et Sargas.
À quand une reproduction dans les Grands Causses?
On espérait peut-être cette année, on sait que maintenant ce ne sera pas le cas. On a eu la bonne surprise en tous les cas dans le Vercors de voir que des oiseaux, des jeunes femelles de 5e année pouvaient se reproduire, alors qu'on attendait, nous, par rapport à ce que l'on connaissait de la biologie de l'espèce, plutôt 7e, 8e année. Donc on espère tous un heureux événement, peut-être dès l'année prochaine.
Qui alors ?
Ah oui, on compte bien sur Aven, qui n'a pas encore quitté le territoire des Grands Causses, qui semble quand même bien fixé dans un petit territoire donné. Il y a eu quelques petits rapprochements avec certains autres congénères, mais bon, voilà, c'est à suivre encore tout ça.
Parce que Leyroux et Adonis donc, sont en couple depuis 2017. On imagine qu'ils attendent la venue d'une femelle, ou pas d'ailleurs.
Des trios existent chez cette espèce. Après, c'est la nature, c'est difficilement prévisible. On ne sait pas s'ils vont accepter un autre congénère.
Oui, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête de ces deux mâles. On verra à l'avenir s'ils sont intéressés par une jeune femelle ou en tous les cas une femelle un peu plus... adultes, en tous les cas, qui pourraient rentrer dans le trio de ces deux mâles.
Mais c'est là que c'est intéressant, justement, de suivre en temps réel et de pouvoir, par rapport à ce qu'on connaissait de la littérature, là, on les suit quasiment au quotidien, donc c'est intéressant pour vous.
Eh bien oui, c'est sûr, on apprend chaque jour un peu plus sur cette espèce.
Donc, dernière question, on a beaucoup parlé, cette espèce est réintroduite dans le cadre d'un programme européen. Pourquoi, en fait ?
Alors effectivement, il y a un programme de réintroduction local dont on parle, c'est le programme de réintroduction des gypaètes dans les Grands Causses, mais il s'inscrit dans un objectif bien plus large, un objectif de conservation de l'espèce à l'échelle européenne. En fait, il y a des populations déjà sauvages de gypaètes qui existent dans les Pyrénées, et d'autres populations aussi qui ont été réintroduites dans les années 40 dans le massif alpin. Sauf que les échanges ne sont pas assez réguliers, même très très peu fréquents. Donc l'idée de ce projet-là, du programme Live J-Pact, c'est de créer des noyaux de population viables dans les Grands Causses, mais aussi dans les Préalpes, avec donc des lâchers d'individus pour obtenir un petit noyau de population qui se reproduit par la suite, qui va permettre de générer des individus erratiques dont on a parlé tout à l'heure, qui vont pouvoir connecter les populations des Pyrénées, les populations des Alpes, et permettre le brassage génétique pour éviter une consanguinité et donc la préservation de l'espèce sur le long terme.
Très bien. Gilles Vergély, bonjour. Vous êtes responsable de la Maison des Vautours. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça représente, ces programmes de réintroduction ? Parce que ça a commencé il y a très longtemps, au début des années 80, avec le vautour fauve. Après, dans les années 90, c'était le moine. Début 2012, le gypaète. Pour vous, en tant que responsable de la Maison des Vautours, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Bonjour à tout le monde, d'abord. Et ça représente beaucoup dans la mesure où... Donc je suis responsable de la Maison des Vautours, c'est un fait. Je suis surtout habitant de la vallée qui est concernée par cette réintroduction de différentes espèces. Quand on a connu, donc à notre époque, quand on était plus jeune, donc, la vallée sans aucun oiseau, et qu'on voit aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir les 4 espèces qui gravitent en Europe dans notre ciel, dans nos cieux, quoi. C'est quelque chose de formidable, quoi. C'est un énorme travail qui a été fait avec la fin des travaux... le lâcher des gypaètes en 2012 qui a couronné le tout, parce que c'est l'animal peut-être le plus connu des espèces de vautours. Et voilà, donc le mangeur d'os, beaucoup de gens le connaissent, et maintenant que nous l'ayons dans notre ciel, c'est quelque chose de très bien, quoi. Super.
Très bien. Donc, la maison des vautours a été un peu renouvelée, a fait peau neuve en 2022. Chaque année, c'est combien de visiteurs que vous recevez ?
On oscille aux environs de 28 à 30 000 visiteurs, on va dire 30 000 visiteurs annuels qui viennent pour découvrir cet oiseau, qui est plutôt méconnu, plutôt mal vu en Europe, même s'il y a une évolution dans les mentalités, et qui pourtant est un animal prépondérant dans la chaîne alimentaire, c'est le nettoyeur, et on s'emploie à la Maison des Vautours à expliquer vraiment à quoi sert cet animal, quoi. Nettoyeur principal de la chaîne alimentaire.
C'est un gros travail de sensibilisation.
Tout à fait, tout à fait. Et qui porte ses fruits. On a les gens, quand ils ressortent de notre visite, après avoir visité les deux étages de musée relatifs à l'oiseau, après les avoir vus de la terrasse d'observation et les avoir vus dans leur intimité grâce à des caméras qui sont positionnées sur les lieux stratégiques, on a des gens qui ressortent en disant qu'on ne voyait pas ces oiseaux de la sorte et on est content de que notre message soit passé.
Très bien. Donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, donc le lâcher là de ce printemps d'il y a 15 jours, c'est fait en comité restreint justement pour pas stresser les oiseaux. Du coup, il y aura un événement grand public le 22 juin à la Maison des Vautours. Qu'est-ce qui vous a motivé à accueillir cet événement chez vous ?
Ah, mais on est très fiers d'avoir été choisis pour recevoir les personnes qui ont contribué à ce lâcher et le grand public qui y est intéressé. C'est un événement qui nous semblait inabordable il y a quelques années encore. Hein. Se dire que dans notre vallée, il y aurait du gypaète barbu, c'était pas, même pour les scientifiques, c'était pas du gagné, quoi. Et donc, il y a eu un énorme travail de fait. Et on est très fiers de recevoir cette manifestation. Et c'est important, quoi. C'est l'animal en plus, le vautour, je le répète, qui est le plus connu du grand public. Et donc, c'est important qu'on l'ait dans la vallée. Et de recevoir les personnes qui ont travaillé à ce projet, on est très fiers.
Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement de quoi il sera question ce jour-là, donc le 22 juin ?
Bon, mais à partir de 14h, donc, l'accès à la Maison des Vautours sera libre pour tout le monde, en collaboration avec le Parc National des Cévennes et la Ligue de Protection des Oiseaux, qui ont œuvré à l'organisation de cet événement. On pourra visiter la Maison des Vautours, il y aura toute une série d'animations et on expliquera au grand public ce programme de lâcher. Ça sera axé sur le gypaète avec des vidéos réalisées sur cet oiseau et toute une série d'interventions des professionnels du Parc des Cévennes et de la LEPO qui seront là pour expliquer aux gens qui ont envie d'en savoir plus ce qui se passe autour du gypaète dans notre région.
Très bien. Donc juste pour préciser, voilà, ce sera de 14h à 19h. Et donc il y aura à partir de 18h30 un apéritif offert et puis donc des échanges avec les différents acteurs qui interviennent dans ce programme. Et donc je tiens à préciser que c'est entièrement gratuit.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais.
Est-ce que vous vouliez ajouter ? Oui, allez-y, pardon.
Pardon. Non, très content que cette manifestation ait lieu dans notre établissement. Et voilà, la Maison des Vautours, c'est une espèce, le vautour, qui mérite d'être connue et qui, voilà, un animal très intéressant.
On a organisé cette journée du 22 juin, juste avant la période du gros, la période estivale, en espérant qu'un maximum d'acteurs locaux, d'habitants locaux qui ne connaissent pas la Maison des Vautours puissent venir et découvrir ce bel outil, en tous les cas, au service de la sensibilisation des grands rapaces que sont les vautours.
Très bien, bah sur ces mots, Jocelyn, je vous propose de clôturer cette émission et à très bientôt. Merci à vous.
Vous écoutez Séquence Parc sur 107FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes, un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes, elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 8h30.
Séquence Parc sur le 107FM.